voyez, pour pouvoir, dont la
Ah
messe,
ouais.
profiter des grâces de l'icône. Voilà. Ou alors, on arrivait à. Enfin, qu'est-ce qu'on faisait encore? Oui, voilà. On gratte la peinture des icônes, on la mélange dans le vin du calice. Parfois, enfin, on le mange aussi, on lèche les icônes, on essaie enfin, donc il y avait tout un. Bon, vraiment une dévotion qui était excessive. Hein. Donc l'empereur, à juste titre, va essayer d'y mettre fin, mais, vous voyez, un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, donc en faisant pas beaucoup de. En faisant pas dans la finesse. Son successeur, un de ses successeurs, Constantin V, va réprimer des révoltes et fait détruire les images dans tout l'Empire. Alors des révoltes souvent fomentées par les moines. Et il y aura de véritables batailles rangées avec des dizaines de morts. C'est très impressionnant. Alors Saint Grégoire le Grand, qui est donc, en 600, qui est un siècle avant, disait que les images avaient pourtant leur utilité. Je le cite d'après le Danziger. Les œuvres peintes sont utilisées dans les églises afin que ceux qui ne savent pas lire puissent néanmoins voir sur les murs ce qu'ils ne peuvent apprendre dans les livres. Donc voilà, il y a un rôle didactique. Saint Jean de Damas, qu'on appelle Damasène aussi, 676-749, qui était le fils d'un chancelier de Syrie qui est sous domination musulmane, va écrire trois traités pour défendre les images. Et il insiste non seulement sur la dimension pédagogique, là, comme dans le texte de Grégoire le Grand, mais aussi théologique, parce qu'il dit, si Dieu s'est rendu visible par l'incarnation, eh bien, il est désormais possible de le représenter, puisqu'il s'est rendu visible dans une humanité. Eh bien, si on représente cette humanité, on représente évidemment l'extériorité de celui qui est le Verbe irreprésentable, bien, mais au moins son extériorité qui est vraiment liée. Alors, on dit par l'union hypostatique entre les deux natures, et qui est la personne du Verbe qui fait subsister une nature humaine, vous voyez. Donc, on ne représente pas la personne humaine du Christ, ça serait nestorien, mais on représente la personne divine du Fils s'étant fait homme, donc s'étant rendu visible. Vous voyez? Donc, on représente l'humanité du Verbe. Puisque c'est l'humanité du verbe, ben c'est le verbe, hein, puisque enfin, on ne peut pas le séparer, hein, comme dit la formule de Chalcédoine, ni confusion, ni séparation, ni etc. Donc, vous voyez qu'on joue un peu sur les mots, mais enfin, c'est très byzantin. Mais l'idée, c'est que s'étant incarné, Dieu s'est rendu visible. Et ça, vous l'avez justement dans la préface qu'on va chanter dans maintenant un mois, dans la préface de la Nativité, hein, qui insiste lourdement sur le Dieu qui s'est rendu visible pour nous arracher du visible et nous faire entrer dans l'invisible avec lui. Vous voyez, l'admirable échange. De Saint Grégoire, c'est celui qui est par nature invisible s'est rendu visible pour nous faire passer du visible à l'invisible. Et donc Saint Jean de Damas, un des derniers pères d'Orient, va insister sur la distinction qu'on doit faire entre la vénération et l'adoration. On peut vénérer l'image parce qu'en vénérant l'image, on adore celui qui est représenté par l'image. Mais on ne doit pas adorer l'image, évidemment, sinon on devient vraiment idolâtre. Et bien sûr, Léon III avait raison de combattre ces excès, ce danger d'idolâtrie. Alors, vous savez, parfois, l'idolâtrie, chez nous, elle subsiste aussi sous une forme un peu amusante, hein. Vous savez, il y a des gens qui ont un bataillon de Sainte Vierge, de Notre-Dame de ceci, Notre-Dame de cela, etc. On se demande quelle est la plus efficace pour obtenir des grâces, etc. Donc, en fait, que ce soit de Fatima, de la médaille miraculeuse, de Lourdes ou d'ailleurs, c'est quand même la même. Hein. Et voilà, alors parfois c'est un peu facile. On a parfois des petits réflexes idolâtriques, nous aussi, dans notre dévotion. Donc, à chaque fois, il faut essayer de bien distinguer. Alors, les images ne sont pas simplement. Elles méritent d'être vénérées parce qu'elles représentent quelqu'un digne d'être adoré si c'est Dieu, ou digne d'être vénéré si c'est un saint, par exemple. Et c'est ce que dira justement le deuxième concile de Nicée, qui est le dernier des conciles œcuméniques de l'Église indivise. Alors, il est convoqué par l'impératrice Irène, Irène qui. Enfin, selon la signification de son nom, voulait instaurer la paix enfin dans l'Empire, et qui pour le faire a fait un peu de ménage quand même dans tout ce monde qui s'écharpait. Donc Irène convoque le concile et qui dira ceci, parlant des images, plus on les. Alors parlant donc des saints, ou des personnes divines, plus on les voit grâce à leur représentation par l'image, plus en contemplant leurs images, on est amené à se rappeler et à aimer les modèles originaux et à leur donner salutation et respectueuse vénération. Non pas l'adoration véritable, propre à notre foi, qui convient à la nature divine seule, mais comme on le fait pour la représentation de la glorieuse et vivifiante croix, pour les saints évangiles et tous les autres objets sacrés. Donc les images sont mises au niveau, si vous voulez, des objets, des reliques en quelque sorte, la croix ou les objets consacrés au culte, comme les objets sacrés ou les évangiles. Donc vous savez, c'était le motif de ce film d'il y a 2 ans là, au Japon. Ces chrétiens qui étaient poussés à piétiner la croix, voilà, voilà, ou piétiner les évangiles, etc. Et donc certains ont refusé, enfin ont refusé parce qu'ils avaient bien conscience que c'était des objets qui avaient une charge sacrée et que le faire, c'était d'une certaine manière, oui, blasphémé en un mot, même si ils étaient aussi conscients que c'était que des objets, c'était pas une. Mais donc les images vont être mises au rang justement des reliques et des objets du culte. On leur doit vénération, mais une vénération qui doit. Donc l'utilité des images, c'est que ça va, disons, susciter, nourrir notre adoration vis-à-vis de celui qu'elle représente.
Est-ce que les protestants ont accepté ça, puisqu'ils
Oh bah, les
c'est lui qui a
protestants,
succédé.
alors au départ, ils ont été très iconoclastes. On a eu beaucoup de vagues iconoclastes. Alors,
Les temples, il n'y a rien
à chaque fois, vous avez des vagues iconoclastes quand vous avez des abus. Alors, au Moyen Âge, on a eu des. Parce que reliques, images, etc. Parfois, il y a du commerce de tout ça. Et alors, vous avez toujours des gens qui se lèvent en disant c'est insupportable, etc. etc. À l'époque des franciscains, on aura à peu près le même mouvement. Mais justement, qui va être canalisé par Innocent III et par les ordres religieux qui se créent à ce moment-là. Alors, des images. Vous aviez déjà la grande querelle des Clunisiens et des Bernardins entre Pierre le Vénérable et Saint Bernard. où il y a un modus vivendi en disant, dans vos églises, Bessel Ballard dit ça, dans les cathédrales ou dans les églises où le commun du peuple vient, qui vient en grand nombre, donc qui n'entend pas ce qui est dit, puisqu'il ne le comprend pas parce que c'est en latin, et puis en plus qui ne sait pas lire, eh bien les décorations picturales, les fresques ont leur signification, même leur importance, voire leur nécessité, parce que ce sont des catéchèses en images. Voilà. Mais il dit, pour nous qui sommes des moines, qui passons notre vie à méditer l'écriture, etc., c'est plus une distraction qu'une aide à la prière. D'où la simplicité extrême des lignes dans les églises cisterciennes. Oui. Cisterciennes. Voilà. Et à chaque fois, la question ressurgit, par exemple, Saint Jean de la Croix, la tradition du Carmel réformé, globalement, Saint Jean de la Croix était partisan de la sobriété la plus extrême. Hein. Vous regardez les premiers couvents de Carmélite de Sainte-Thérèse, globalement, un parquet au sol, des murs blanchis à la chaux, Et puis, il n'y a rien. C'est très extrêmement dépouillé. Hein. Et les carmélites vivent dans leur cellule, hein, quand elles vont au cœur. Alors, bien sûr, la même chose chez les chartreux, etc. Sauf que il y a aussi le baroque est quand même passé par là. Et vous avez quand même de temps en temps de fastueux retables espagnols baroques dans des églises extrêmement dépouillées, mais voyez, l'idée est toujours la même. Hein. Celui n'a besoin d'images que celui qui peut pas vraiment, qui progresse pas vraiment dans l'intériorité, dans la vie intérieure, et celui qui progresse dans la vie intérieure n'a pas besoin. Alors, justement, les protestants vont jouer là-dessus. Ils vont dire l'évangile, sola scriptura, donc l'écriture nous suffit, comme on n'a pas besoin de représentation de l'écriture. Évidemment, ce sont tous des docteurs en théologie qui ont fait la réforme. Donc, ils étaient aussi avancés dans la méditation. Le petit peuple de Saxe ou de d'Angleterre l'était certainement un peu moins. Mais en tout cas, il y a eu de véritables campagnes de destruction des statues, des vitraux, notamment en Angleterre, où la moindre image était passible de mort, hein, à la période calviniste de l'anglicanisme au XVIe siècle. Il y a eu des batailles pour savoir si on pouvait mettre une croix et deux chandeliers sur un autel, hein, pour le culte. Et puis, après, en Angleterre, c'est avec le courant High Church, avec tout le mouvement élisabétain, etc., on en est revenu à des représentations imagées. Hein. En Allemagne, les choses sont faites avec beaucoup plus de mesure, dans la mesure où, justement, le protestantisme, c'est constitué petit à petit, en fait. Hein. Au départ, Luther avait gardé la messe, il avait gardé les sacrements, il avait gardé les vêtements liturgiques, et puis c'est progressivement que certaines choses ont disparu, et encore pas en Scandinavie. Alors avec les calvinistes, en revanche, on est un petit peu avec la tabula rasa. Et alors, du coup, comment on va... Vous savez, la nature a horreur du vide. Alors, elle va remplacer les yeux par l'ouïe. C'est le moment où va se développer tout ce trésor, en quelque sorte, des cantiques protestants, piétistes, etc. Donc, ce qu'on ne voit plus, on chante, d'une certaine manière. Alors, vous savez, il y a Aristote dit que la vue est supérieure à l'ouïe, d'autres disent que l'ouïe est supérieure à la vue parce qu'elle est plus immatérielle. Enfin bon, alors laissons les philosophes se battre sur la question de savoir qu'est-ce qui est plus spirituel, de la vue ou de l'ouïe. Dans le catholicisme, on a fait le choix de garder les deux. Souvent, c'est comme ça. Chez nous, on garde les deux. On tient le paradoxe, alors que les hérésies ont toujours tendance à prendre un et laisser l'autre.
Dans l'orthodoxie, on peut dire qu'on a gardé les deux.
Oui, c'est pour ça qu'ils sont si proches.
Hein.
Et le chant. À telle enseigne qu'il n'y a pas de messe s'il n'y a pas de chant. Et puis, il n'y a pas de messe s'il n'y a pas d'église. Nous, les nouveautés... Les nouveautés 18e, 19e siècle, c'était de commencer à dire la messe à la campagne, si j'ose dire, des messes en plein air, surtout avec les guerres mondiales. Hein. Mais avant, il fallait un hôtel pour dire une messe, et l'hôtel, il fallait qu'il y ait une église dessous, enfin autour. Hein. Alors on a eu, et des reliques en tout cas, alors on a eu tout le mouvement quand même des missionnaires. Par exemple, les missionnaires franciscains qui partaient en Perse ou en Chine ou au Moyen-Âge, ils trimbalaient des hôtels portatifs. Normalement, c'était l'âne qui accompagnait le franciscain qui portait l'hôtel. Et puis, donc, des hôtels qu'on... Alors, vous savez, les hôtels qu'on ferme, hein, voilà. Comme disait avant, Altarflügel, là, les ailes d'hôtel, voilà. Et Flügel Altar, plutôt. Et puis, bon, qu'on déployait en les ayant posés sur une base, etc. Mais bon, vous voyez, à l'origine, la messe ne pouvait être dite que dans une église. Sachant quand même qu'à l'origine de l'origine, elle était dite là où on pouvait. Hein, parce que avant le tournant constantinien, la messe était dite sur des autels de bois, dans des maisons privées. Hein, je crois que le premier autel en pierre, au moins en Occident, ça a été la dédicace de Saint Jean de Latran, je crois bien, ou Sainte Marie Majeure. Non, Saint Jean de Latran, je crois bien. C'est avec Saint Jean de Latran qu'on a, pour la première fois, fait des autels de pierre, disons vraiment un grand autel de pierre, quoi, qui n'était plus mobile. Et voilà. Mais. Donc, la question de l'iconoclasme va être plus ou moins réglée à la fin du 8e siècle, hein, avec ce concile, mais le conflit va se rallumer au 9e siècle. Mais là encore, les moines vont tenir bon. Curieusement, ce sont les moines qui, dans l'Orient, sont les défenseurs des images. Alors que chez nous, en Occident, c'est plutôt le clergé, on pourrait dire, séculier, alors que le clergé régulier est plutôt partisan de la sobriété. Enfin, en tout cas, les moines, notamment sous la direction de Théodore le Studite, le Studion, vous savez, c'est un grand monastère à Constantinople, vont résister, et Théodora, la veuve de l'empereur Théophile, va réunir un synode à Constantinople en 843 en faveur des images. Et ça sera le trait final en Orient de la question des images. Et la date de ce synode est passée dans la liturgie orientale sous le nom de fête de l'orthodoxie. Vous voyez. Alors, chez les luthériens, il y a la fête de la réforme. Et chez les orientaux, il y a la fête de l'orthodoxie, c'est-à-dire de la victoire finale des images sur les iconoclastes. Mais je vous dis, les iconoclastes, il y aura des poussées iconoclastes, alors en Occident en tout cas, très, très souvent, avec... beaucoup de nos cathédrales ou de nos églises ont été mutilées par les protestants en France. Tout n'est pas dû à la Révolution. une bonne partie des choses sont dues aux protestants, parce que nous, on avait des protestants calvinistes.
Une étude qui a été faite, il y a eu plus de destruction de statuaire par les huguenots protestants que par la Révolution française.
Ah oui, parce qu'ils cassaient, les statues. Par exemple, à Saint-Vendry, il y a plein de statues qui sont mutilées. Mais bon, ils n'avaient pas brûlé l'abbaye ou sécularisé les ordres. Souvent en Allemagne, comme ils étaient luthériens, ils récupéraient les choses sans trop les détruire, parfois en Angleterre aussi. Mais il y a eu certaines cathédrales anglaises qui ont été complètement vandalisées. Enfin, on gardait les murs, évidemment, mais les vitraux étaient brisés, les statues cassées, etc. Et puis alors, je vous dis, il y a eu cette période. On peut dire que la dernière période iconoclaste, hein, ça a été après le Concile Vatican II.
Oui.
Ça, c'est des
grands. Oui, alors ça.
C'est pas que les images, c'est aussi les ornements.
Oui, oui. Alors, oui, tout. Tout.
Les hôtels, oui.
Les hôtels, on en est revenu au planchard passé de l'époque. De Trajan ou d'Aurélien ou d'Adrien. Les fresques ont disparu, les peintures, les ornements sacrés,
les objets
sacrés, les chants,
les chemins de croix,
tout
a disparu.
Et il restait plus rien. Et
table rase.
Alors, table rase, oui, c'est ça. Et encore, avec toujours le même argument, on n'a pas besoin d'images. Les images, ça encourage la superstition. Il faut revenir à la pureté de la foi. La pureté de la foi, c'est l'intériorisation de la parole.
Mais c'était illégal. Parce que le mobilier appartenait.
Oui, alors en plus, après 1905, c'était devenu illégal. Et alors, vous savez, très souvent.
Ils n'ont pas fait leur travail, devraient être en taule, parce qu'ils ont, ils ont collaboré à prendre des choses qui ne leur appartenaient pas. Oui, ce n'est pas du recel, mais c'est de le.
Vous qui êtes il sait bien ça, oui. Mais c'est tout à fait. Et enfin. Souvent, d'ailleurs, il y a des choses qui ont été sauvées par les édiles publics, soit des maires, soit des fonctionnaires, notamment des fonctionnaires du ministère de la culture, parce qu'ils étaient en fait